Il est 14h ici à Washington DC, 19h en temps universel. Merci d'écouter VOA Afrique. À ce micro, Mohamed Oumfa pour vous présenter un bulletin d'information. Le président de Guinée-Bissau, Oumaru Sissoko Embalo, a déclaré ce dimanche que les élections présidentielles et législatives se tiendront le 30 novembre. « Je vais signer un décret dans ce sens », a-t-il dit à la presse, sans préciser la date de signature. La date de la fin du mandat du président Embalo fait depuis plusieurs semaines l'objet de contestations de la part de l'opposition qui estime que celui-ci arrive à échéance le 27 février. La Cour suprême a toutefois indiqué début février que M. Embalo termine son mandat le 4 septembre. Monsieur Embalo a prêté serment pour un mandat de 5 ans le 27 février 2020. Le résultat de sa réélection avait été contesté par le chef de l'opposition et ancien premier ministre Domingos Simoes Pereira. Ce dernier avait déposé un recours devant la Cour suprême qui a mis plusieurs mois avant de se prononcer en faveur de Monsieur Embalo le 4 septembre 2020. Au Soudan, les paramilitaires, les FSR, Forces de soutien rapide et leurs alliés ont signé au Kenya une charte fondatrice d'un gouvernement parallèle. La charte a été signée au cours d'une réunion à huis clos tenue dans la nuit de samedi à dimanche à Nairobi. Les signataires du document entendent créer un gouvernement de paix et d'unité dans les zones du Soudan contrôlées par les rebelles. Le ministre soudanais des Affaires étrangères Ali Youssef a déclaré dimanche que son pays n'accepterait pas la reconnaissance d'un gouvernement parallèle lors d'une conférence de presse avec son homologue égyptien au Caire. Le Kenya a été critiqué pour l'accueil de cette initiative par le gouvernement soudanais qui a rappelé son ambassadeur à Nairobi jeudi, accusant le président William Ruto d'agir selon ses intérêts commerciaux et personnels avec les sponsors régionaux de la milice. Le chef de la diplomatie britannique David Lammy a appelé ce dimanche au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, condamnant une nouvelle fois l'avancée du M23 dans l'est du pays. La situation dans l'est de la RDC est tout à fait inacceptable, a-t-il écrit sur le réseau social X. Le Royaume-Uni avait convoqué mardi le haut-commissaire rwandais, appelant le Rwanda à retirer immédiatement ses troupes de la RDC. Pour la première fois vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné directement le Rwanda pour son soutien au M23. L'océan Viking, navire ambulance affrété par l'ONG SOS Méditerranée, a secouru 112 personnes au large de la Libye lors de deux sauvetages entre samedi et dimanche, a annoncé l'organisation basée à Marseille en France. Le navire a d'abord porté assistance à une embarcation en fibre de verre dans la nuit, secourant 25 migrants, dont trois femmes, l'une étant enceinte. Dimanche matin, 87 autres migrants qui se trouvaient sur un bateau en bois ont été pris en charge en coordination avec les autorités italiennes. Les personnes secourues viennent principalement du Bangladesh, de Somalie ou d'Égypte, a expliqué l'ONG.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Allemagne, les conservateurs de Friedrich Merz ont remporté ce dimanche les élections législatives devant le parti d'extrême droite AfD. Selon les sondages, à la sortie des urnes des chaînes de télévision publiques, les conservateurs des partis CDU-CSU recueillent entre 28,5 et 29% selon ces sondages, tandis que l'AfD obtient 19,5 à 20%, un résultat inédit pour un parti d'extrême droite à un scrutin fédéral depuis l'après-guerre. Friedrich Merz, qui a toutes les chances de remplacer le social-démocrate Olaf Scholz au poste de chancelier, a exclu toute alliance gouvernementale avec l'AfD. Le résultat des élections est mauvais et j'en assume donc la responsabilité, a concédé le chef du gouvernement sortant Olaf Scholz, félicitant son rival de droite Friedrich Merz pour sa victoire. Un avion d'American Airlines a été dérouté ce dimanche vers Rome, en Italie, à la suite d'une alerte à la bombe et a atterri à l'aéroport romain de Fiumicino, a indiqué une source aéroportuaire. Le Boeing, avec 199 passagers à bord, était parti de New York et se dirigeait vers New Delhi quand l'alerte à la bombe l'a contraint à changer sa route et se poser à Fiumicino sans incident, où tous les passagers ont débarqué et reçoivent de l'assistance selon la même source. Et puis le pape, dans un état critique avec une pneumonie de deux poumons, a passé une nuit tranquille, a assuré ce dimanche le Vatican sur Telegram. François disant poursuivre avec confiance son hospitalisation et ses traitements. Merci d'avoir écouté ce bulletin d'information. L'information, c'est 24h sur 24 sur notre site web voaafrique.com.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions, l'héritage spirituel et philanthropique de l'Agakan 4, l'ismaélisme nizarite et son impact sur l'Afrique, c'est notre sujet de ce soir. Eric Manelakiza avec vous, Michel Claire-Joseph assure la réalisation de cette édition. L'Aga Khan IV, le 49e imam des Ismaéliens Nizarites, nous a récemment quittés, laissant un héritage aussi vaste que son influence spirituelle et philanthropique. À travers la fondation Aga Khan et ses initiatives mondiales, il a contribué de manière significative au développement en Afrique, en Asie et au-delà. Son décès marquant la fin d'une ère pour la communauté ismaélienne, l'émission de ce soir se penche sur la philanthropie des Ismaéliens Nizarites, leur impact à travers les actions de l'Aga Khan IV et les valeurs qui guident leur engagement humanitaire. Nous explorons aussi ce qui distingue leur approche philanthropique et la manière dont elle se compare à d'autres formes d'activisme social dans le monde. Pour en parler, je suis en ligne avec Ibrahima Khan de l'OSIWA, Open Society Institute à Dakar au Sénégal. Monsieur Khan, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Et bienvenue dans le dialogue des religions.
Merci pour l'invitation à cette émission.
Et Monsieur Khan, la philosophie des Ismaéliens Nizarites repose sur des principes spirituels uniques. Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident leur engagement dans le monde, notamment en Afrique?
J'ai personnellement vu ce que l'Aga Khan, à travers ses différentes initiatives, a réalisé en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Et ce que moi j'ai particulièrement apprécié, c'est l'idée de s'investir dans la communauté, apporter une contribution à la communauté et ne rien attendre en retour de la communauté. C'est-à-dire cet altruisme-là que j'ai vu dans les actions de la Fondation d'Aga Khan, pour moi, est quelque peu de spécial par rapport aux actions que les différentes fondations font. Si vous prenez les fondations américaines ou les fondations européennes, c'est vrai qu'elles investissent beaucoup d'argent, mais c'est pour apporter une influence politique. C'est pour pouvoir peser sur les événements à travers les actions qu'ils mènent en Afrique et pouvoir influencer le fonctionnement des institutions comme les Nations Unies, comme l'Union européenne, comme l'Union africaine et autres. Telle n'est pas la philosophie de l'Aga Khan. Et je pense que ce que l'Aga Khan a fait, de mon point de vue, c'est voir les besoins qui existent dans une communauté et travailler pour la réalisation, la concrétisation, la satisfaction des besoins des gens, vraiment en utilisant la religion comme étant un facteur d'unification avec les communautés. Vous allez aujourd'hui à Mombasa, l'une des plus grandes écoles de l'Afrique de l'Est en matière d'enseignement, c'est la fondation de l'Aga Khan, qui offre des bourses à des enfants qui appartiennent à des communautés, pour la plupart des communautés qui ne sont pas musulmanes, des communautés qui sont catholiques. Et c'est là, pour moi, que l'on sent l'altruisme. C'est-à-dire, on aurait pu utiliser l'argent pour vraiment faire la promotion de l'islam. On utilise l'argent pour davantage montrer que l'humanisme est quelque chose de fondamental dans toute vie en société. Et ça, c'est ce que j'ai perçu au niveau de l'Aga Khan dans l'école qu'il a créée à Mombasa, qui est l'école la plus importante. Prenez par exemple la santé. Le plus grand hôpital privé de Nairobi, c'est l'hôpital Aga Khan, qui est pratiquement un hôpital régional, qui fonctionne selon des règles qui font que tout le monde peut avoir sa place au sein de cette communauté. Alors, l'Aga Khan ne s'est pas seulement, pour ce que j'en sais, intéressé à ces aspects santé, éducation, qui sont pratiquement les éléments les plus fondateurs qui permettent à une société de se perpétuer, mais il a aussi travaillé sur l'environnement. Il a aussi travaillé sur, comment dirais-je encore, des structures comme les zoos au Mali. Le plus grand zoo de Bamako a été pratiquement refait avec la fondation de l'Aga Khan. Et aujourd'hui, si vous allez dans le zoo de Bamako, vous voyez comment les animaux sont mieux traités, comment l'environnement a été restauré pour permettre aux citoyens maliens de pouvoir, pendant les week-ends, aller allier, comment dirais-je encore, une activité lucrative, activité sociale avec un travail environnemental. Ça, c'est l'Agacan qui l'a fait. Et ce genre d'investissement, on ne le voit pas avec les autres fondations. Les autres fondations s'intéressent à la démocratie, s'intéressent aux droits de l'homme, dans la perception occidentale de la chose. Mais l'Agacan, lui, il cherchait d'abord à connaître les besoins d'une communauté et ensuite travailler avec cette communauté-là pour essayer de satisfaire ses besoins. Et travailler avec ces communautés pour une satisfaction des besoins dans la longue durée. Quand on installe une école, une académie à Gakan, c'est pour la longue durée. C'est pas pour simplement travailler pendant 2, 3 années, 4 années. Maintenant, c'est des générations et des générations de Kenyans, d'Ougandais, de Tanzaniens qui fréquentent ces écoles-là. Et ces écoles vont survivre à l'Agacan aujourd'hui. Tel est aussi l'hôpital. Et je sais que dans la région, en Afrique de l'Est, il a investi dans beaucoup d'autres secteurs sociaux. Et ce sont ces investissements-là qui donnent même à la communauté, qui est une communauté vraiment très minoritaire, mais qui donnent à la communauté un certain statut dans les sociétés de ces pays-là. Vous allez au Kenya, la société ismaélite, elle est très, très, très respectée du fait de l'action du fondateur, en tout cas du représentant, celui qui personnifie cette communauté-là. Et ça, je pense que c'est une manière nouvelle de penser la philanthropie. C'est aussi une manière nouvelle vraiment d'investir dans les communautés de manière à satisfaire les besoins essentiels de cette communauté. Et ça, je pense que les communautés lui en sauront gré pendant toute leur vie. Et ces communautés-là ne me manqueront jamais vraiment de respecter la mémoire de cet illustre investisseur qu'était l'Agacan.
Oui, vous soulignez donc ce qui distingue les enseignements de l'Agacan des autres modèles d'aide au développement. Le rôle de l'Agacan 4, vous l'avez dit, a été central dans le développement d'initiatives humanitaires à travers le réseau Agacan de développement. En quoi cette approche alliant spiritualité et philanthropie est-elle spécifique aux Ismaéliens nizarites?
Cette communauté religieuse musulmane voulait montrer à travers, parce que l'Agacan, il a utilisé, il a mis sa richesse au service de sa communauté. Il a mis sa richesse au service des communautés qui ont accueilli les Ismaélites. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communautés religieuses musulmanes qui s'investissent dans cela. Prenez pratiquement toute l'Afrique de l'Est et toute l'Afrique australe. Vous avez énormément de communautés musulmanes, des Pakistanais, des Indiens musulmans qui viennent, qui s'investissent dans ces communautés. Mais la différence entre ces communautés, la communauté ismaélite et les autres communautés, c'est la manière d'agir, c'est la manière d'apporter une contribution, c'est la manière d'utiliser la richesse qu'on a gagnée ailleurs au sein des communautés pour vraiment essayer de satisfaire les besoins de cette communauté-là. Et ça, je pense que cette approche qui utilise les principes religieux, non pas pour vouloir imposer sa religion, mais pour contribuer à l'harmonie sociale dans ces communautés-là, c'est vraiment quelque chose d'atypique quand on parle de philanthropie. La philanthropie, surtout par les moments que nous savons, que nous connaissons, vous voyez les riches qui sont aujourd'hui au service de Trump et qui utilisent le pouvoir de Trump pour davantage gagner de l'argent. Telle n'était pas la philosophie de l'Agacan. La philosophie de l'Agacan, c'était d'utiliser les ressources gagnées au service des communautés pour rendre service à ces communautés et pour faire en sorte que ces communautés-là puissent ultérieurement se prendre en charge de manière plus effective. Ça, je pense que c'est quelque chose de très spécial dans la démarche de l'Agacan.
Oui, et dans quelle mesure l'engagement philanthropique de l'Aga Khan IV a-t-il contribué à redéfinir les relations entre la foi islamique et le développement socio-économique, en particulier en Afrique?
Mais prenez le cas d'un pays comme le Kenya, qui est un pays à majorité catholique, où vraiment l'Église catholique sous ses différentes branches est très 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 active. Et pourtant, l'Aga Khan, à travers ses investissements vraiment très précis, très articulé, est parvenu à faire admettre sa communauté au sein de la société kenyane, ou même au sein de la société de l'Afrique de l'Est. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément fondamental qui montre à quel point sa démarche était tellement une démarche éducative, une démarche qui visait à contribuer au progrès de la communauté et a fait que toutes les communautés, même si elles ne partageaient pas les mêmes religions, ont accepté sa communauté pour que cette communauté-là puisse vraiment trouver sa place dans les sociétés où elles ont décidé de s'installer.
Et comment l'ismaélisme nizarite aborde-t-il la question de la diversité culturelle et religieuse dans ses actions de développement, en particulier en Afrique, et où il y a une grande variété de traditions et de croyances? Vous avez parlé tout à l'heure de l'exemple du Kenya. Y a-t-il d'autres exemples à illustrer?
Oui, mais vous savez que les ismaélites en tant que tels, c'est déjà des chiites. Ils appartiennent à une branche de l'islam. Une branche assez minoritaire de l'islam. Donc, ils savent d'où ils viennent, ils savent qui ils sont. Et donc, dans leur démarche, plutôt que de contribuer encore à diviser, leur démarche vise à davantage créer de l'harmonie au sein de communautés, à davantage faire en sorte que les communautés, plutôt que de voir les minorités comme étant les problèmes, mais c'est de voir à travers les minorités un moyen de renforcer la majorité. Et ça, je pense que dans leur démarche, parce que ce qui caractérise cette communauté en Afrique, notamment en Afrique de l'Est, c'est sa discrétion. En dehors des vêtements qu'ils arborent, on ne peut pas les distinguer du reste de la communauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout dans des sociétés qui sont des sociétés où tout fonctionne à partir de l'ethnie, tout fonctionne à partir de la religion. Mais que ces ismaélites-là puissent utiliser leurs actions humanitaires pour davantage renforcer les communautés, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que le fils qui va succéder à son père va vraiment utiliser tout ce capital que le père a pu faire naître pour vraiment aller dans le sens d'un approfondissement de l'action de son père plutôt que dans le sens de créer une situation totalement différente. Et ça, j'espère qu'il le fera, surtout avec le soutien des États comme la Tanzanie, comme le Kenya, comme l'Ouganda, et même dans une moindre mesure le Rwanda et le Burundi, d'un pays dans lequel des investissements assez consistants ont été faits par le défunt Aga Khan.
Vous parlez justement de la succession. Quelles pourraient être les perspectives d'avenir pour la communauté ismaélienne nizarite et son engagement philanthropique sous la direction d'Aga Khan V, et comment cette transition pourrait-elle affecter les initiatives qu'on voit en Afrique?
La difficulté pour répondre à cette question, c'est le fait que le fils, on ne le connaissait pas. Il n'était pas visible, il n'était pas très présent dans les activités de son père. Le père a hissé la barre très 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 haut, non seulement en termes d'engagement sociétal, mais aussi en termes d'investissement au profit des communautés. Donc j'espère que le fils va tout mettre en œuvre pour maintenir au moins ce niveau d'engagement-là et garder et renforcer les relations que son père a eu à tisser tout au long de sa vie, notamment en Afrique de l'Est. Et ce que j'espère, c'est que son père a travaillé beaucoup en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Il s'est investi dans les dernières années de sa vie en Afrique de l'Ouest. Je pense que son fils va continuer à travailler pour que les actions de la Fondation ne se limitent pas seulement à ces deux régions, que ces actions essaiment un peu en Afrique centrale et probablement en Afrique australe, où beaucoup de communautés sont aujourd'hui à la recherche de moyens pour leur survie. Je pense notamment à la RDC, ou à la République centrafricaine. Ces communautés-là ont besoin du soutien de la part de structures privées. Et comme dans beaucoup de ces régions, il y a des communautés religieuses musulmanes, certainement que cela va aussi aider à renforcer, comment dirais-je encore, les engagements religieux dans ces pays-là.
Alors, la succession à la tête de la communauté ismaélienne s'effectue à travers une pratique religieuse appelée Nas. Commence au processus de désignation de l'imam. Influence-t-il la continuité des actions philanthropiques et spirituelles au sein de la communauté?
Vous savez que toutes ces communautés-là ont des règles vraiment très complexes, très difficiles à appréhender. Mais toujours est-il que aujourd'hui, le successeur de l'Aga Khan vient de sa propre famille, son propre fils. Et ça donne des raisons d'espérer pour que l'engagement qui a été celui du père puisse être perpétué par le fils, et que le fils, bon, apportera bien sûr sa touche personnelle, mais que même s'il apporte sa touche personnelle, cette touche personnelle ne va pas, n'ira pas à l'encontre de vraiment la philosophie, la démarche qui a été suivie par l'Aga Khan, et surtout les rapports que l'Aga Khan a essayé de créer, aussi bien avec les communautés qu'avec les États. Parce que ça également, c'est vraiment une des caractéristiques de la démarche de la Fondation, c'est travailler avec tout le monde. Quand vous regardez les fondations occidentales, souvent, elles ne travaillent seulement qu'avec les organisations de la société civile ou travaillent seulement avec les communautés, mais et parfois seulement avec les États. Mais là, c'est tout le monde. Tous ceux qui peuvent vraiment bénéficier de l'action de la Fondation doivent être traités avec déférence par la Fondation. Et ça, je pense que le fils va continuer cette démarche-là, de manière à ce que son successeur puisse vraiment aussi travailler à davantage, vraiment faire en sorte que l'action de la Fondation soit vraiment une action pérenne dans ces communautés-là qui en ont toujours besoin.
Et comment l'action de l'Aga Khan 4 a-t-elle contribué au dialogue interreligieux et à la stabilité sociale dans des pays où il est actif?
Mais prenez le cas du Kenya. Aujourd'hui, si les musulmans aujourd'hui pignon sur rue et influence beaucoup l'action politique dans leur pays, ou bien si l'islam est devenu une religion aussi importante dans un pays comme l'Ouganda, c'est certainement en grande partie à cause de l'influence de l'Aga Khan. C'est-à-dire, sans être sans faire du prosélytisme, il a quand même contribué à donner une image de marque à la religion musulmane. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très extraordinaire. Vous avez beaucoup de milliardaires en Arabie Saoudite, vous avez beaucoup de milliardaires dans les pays arabes, mais ils n'ont pas eu ce type d'influence dans les sociétés de l'Afrique subsaharienne que l'Aga Khan a pu avoir dans les communautés où sa fondation travaille. Ça vous montre toute la grande différence.
Au-delà des infrastructures et des financements, quel héritage immatériel l'Aga Khan 4 destine à l'Afrique et au monde musulman en général?
C'est l'humanisme. C'est le fait que tous les êtres humains sont pareils et que si on a une parcelle de pouvoir, on a des moyens, si modiques soient-ils, qu'on puisse les mettre, les utiliser avec efficacité, les utiliser de manière efficiente pour le progrès de la communauté. Cette idée-là, cette manière de penser les relations dans la société, c'est quelque chose de très atypique dans les fondations. Et pour moi, ça a été son apport. Avant l'investissement de l'Aga Khan, personne ne connaissait on ne connaissait pas très bien la société ismaélienne. On ne connaissait pas très bien ce qu'ils faisaient. Mais à travers leurs actions, à travers les idées qu'il a développées pendant ses 40 ou 50 ans de présence dans ces pays-là, il a complètement changé la manière de percevoir les relations dans une communauté et comment l'argent en tant que ressource peut aussi servir une communauté sans pour autant pervertir cette communauté-là. Surtout quand on fait un investissement qui est un investissement utile pour la communauté. Ça, c'est vraiment une caractéristique de la fondation.
Par rapport à d'autres religions ou à d'autres philosophies de l'islam, quelle est la place actuelle des Ismaéliens nizarites en Afrique ?
Mais ils sont minoritaires. Et d'abord, ils appartiennent à la communauté chiite, qui est déjà minoritaire au sein de l'islam. Et ils sont aussi une minorité au sein de cette minorité-là. Donc, ils n'essaient pas, eux, de faire du prosélytisme. Ils n'essaient pas, eux, de s'agrandir au sein de communautés, de vraiment développer leur communauté. Mais ils essaient d'être utiles en tant que musulmans. Ils essayent de montrer à travers des investissements qui sont très précises, qui sont vraiment tournés autour de l'essentiel. Comme je vous l'ai dit, l'éducation, la santé, la protection de l'environnement, etc. Pour vraiment montrer que les communautés peuvent apporter leur contribution en étant toujours modestes, en étant toujours humbles dans leur manière d'agir au sein des communautés. Et donc, je n'ai jamais pensé que l'Aga Khan avait vraiment ce souci de tout faire pour que sa communauté soit d'une très 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 grande influence. Ce n'était pas, même sa manière de vivre montrait qu'il n'avait pas cette ambition-là. Et donc c'est juste pour dire que la philosophie qui sous-tend ce mouvement est une philosophie qu'il faut examiner de plus près. Et le fait que des journalistes comme vous essaient à travers l'évocation de la vie de l'Aga Khan IV, montre vraiment qu'il y a une manière d'aider des communautés, il y a une manière d'agir au sein de communautés qui peut ne pas être celle de grandes fondations et qui peut avoir un impact réel sur ces communautés-là.
Le passage du flambeau à Aga Khan V s'accompagne de la perpétuation d'une vision spirituelle de développement qui transcende les frontières géographiques et culturelles. L'Aga Khan IV a su allier foi et action humanitaire dans un monde en constante évolution, offrant un modèle de philanthropie durable et respectueux des diversités. En examinant cette œuvre de vie, nous comprenons donc mieux comment la philosophie des Ismaéliens nizarites continue d'inspirer un engagement profond envers la dignité humaine et l'épanouissement de tous, quelle que soit leur origine. C'est ce que vous venez de souligner, Ibrahima Khan. Merci beaucoup pour votre grande contribution nous éclairant sur Aga Khan IV et ses œuvres en Afrique. Merci.
Merci et merci d'avoir vraiment choisi de mettre la lumière sur le travail que cet homme-là a réalisé de façon très discrète dans les communautés où il a voulu s'investir. C'était tellement une très bonne chose que le fait de l'évoquer déjà est une manière d'appeler peut-être d'autres communautés aussi à s'inspirer de cette démarche-là. Merci, merci pour avoir mis ça en exergue.
Merci beaucoup. Eric Manilakidze a été avec vous. Michel Claire Joseph assure la réalisation de cette édition. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine.